Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Shapeology, podcast dédié au surf, aux planches et aux métiers du shape. Aujourd'hui, on discute avec Aristide Schoendienst, cofondateur de Polyola, fabricant de mousse polyuréthane recyclée et recyclable, et très bientôt de résine polyester biosourcée. Il nous raconte le début de leur aventure, nous explique leur processus de fabrication et bien sûr nous parle plus dans le détail de leurs produits. Passez sur notre compte Instagram shape.ology et sur notre site shapeology.fr pour retrouver tous les liens et photos de l'épisode. Et maintenant, place à Aristide. Racontez déjà vous personnellement, les associés de Polyola, d'où vous venez et quel est votre parcours.
Oui, alors moi je m'appelle Aristide et j'ai un nom français mais je suis d'Allemagne et avec mon co-fondateur Daniel, il est autrichien, on a créé Polyola en France il y a 3 ans déjà. Et l'idée, notre entreprise, nous, on développe des matériaux plus durables pour la fabrication de planches de surf. On a créé le premier mousse global à partir de plus de 70% matériaux déjà recyclés et 100% recyclables. Et on est en train de développer une résine polyester biosourcée aussi pour le sport de surf. Okay. Mais nous, on vient pas de l'industrie de surf. Donc moi, comme je t'ai dit avant, déjà, je suis architecte et lui, il a fait des études dans le business et on était dans un colloque en Autriche quand on était plus jeune.
Donc vous êtes rencontrés pendant les études?
Ouais, quand on avait 18 ans à peu près. Et maintenant, on a 31 ans, donc il y a longtemps déjà. Et on était dans un colloque ensemble, et là, on a commencé à surfer ensemble aussi. Et un jour, on a nous dit, c'est pas possible que toutes les planches de surf, ils sont vraiment faits avec des matériaux pas durables, vraiment toxiques. Et comme moi, je suis architecte, j'étais toujours intéressé pour des matériaux différents aussi. Donc, on a commencé de rechercher qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce problème, on peut dire. Oui. La première idée, c'était il y a 6 ans déjà, on peut dire. Okay. Mais c'était juste une idée, tu vois. Mais on a vraiment commencé avec le research et développement il y a presque 5 ans, bon, 4 ans, 5 ans. Et on est basé en France. On a créé l'entreprise ici il y a 3 ans déjà.
Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les prémices, quoi? Comment c'est arrivé? Parce qu'au début, du coup, vous étiez étudiant ou vous travailliez dans des trucs qui n'avaient rien à voir. De là à venir en France créer une entreprise, j'imagine qu'il a dû se passer pas mal de choses.
Oui, c'est sûr. Donc, moi, j'étais architecte et Daniel, il a bossé dans un autre truc aussi après ses études. Et moi, j'étais à Berlin et lui, il était en Autriche toujours. Mais on a eu cette idée que nous voulons bien changer la manière de commencer à faire une planche de surf, mais avec presque le même matériau qui sont déjà utilisés dans l'industrie de surf, parce que pour nous, ça c'était important de travailler avec tous les gens qui déjà font les planches de surf, mais avoir une offre plus durable pour eux. Nous, on était en France, des vacances pour quelques semaines, et on a parlé avec quelques shapers, beaucoup de shapers, comment c'est fait une planche, ça c'est quoi le mousse polyuréthane, non? Ça c'est le mousse plus utilisé dans la construction de planches de surf. Et donc, de là, on a commencé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire différent. Et c'est une longue histoire, mais une longue histoire courte. On a trouvé une partenaire chimique. Et eux, ils ont ils ont créé un processus pour le recyclage de polyuréthane, un processus vraiment unique, mais pour des autres produits. Donc avec eux, on a commencé de réimaginer qu'est-ce qu'on peut faire une mousse polyuréthane recyclée et recyclable pour les planches de surf. Et là, avec eux, c'était une entreprise chimique. On a commencé avec le research. Et après, on a trouvé une fournisseur en Espagne. Et avec lui, on a commencé de développer notre propre mousse pour les planches de surf, dans tous les moules. Et ça, c'était un an quand moi, j'étais à Berlin. Daniel, il était en Autriche. Donc, on est voyagé entre ici et la France et on a eu du travail en Allemagne avant et c'était aussi le temps de Covid. Donc, c'était pas vraiment facile de faire quelque chose de différent et de faire quelque chose de nouveau. Mais après, quand on était ici dans le sud-ouest, on a rencontré des bonnes personnes, vraiment de bonnes personnes. Et on a eu beaucoup d'aides de la région Nouvelle-Aquitaine et d'une banque pour vraiment commencer avec le projet ici en France. Donc ça, c'était très important pour nous d'avoir cet réseau, aussi les aides des réseaux entreprendre ici en France pour vraiment commencer avec tout ça.
Ok. L'innovation, en fait, vous l'avez mise au point après discussion avec les shapers et après discussion avec un chimiste, quoi.
Oui. Parce que pour nous, ça, c'était vraiment important. Et nous, on n'était pas l'expert pour les matériaux, pour les planches de surf, non? Les shapers, ils sont vraiment l'expert dans ce domaine.
Ouais.
Donc, on a parlé avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent pas. Après, on a transféré tout ça avec une chimiste en Allemagne pour créer notre premier produit.
Ok, mais du coup, comment vous avez connecté avec cette chimiste? C'est quelqu'un que vous connaissiez ou vraiment vous avez recherché comme ça?
On a recherché et c'était dans un salon de chimie.
Ok.
Et on était là et c'était vraiment bizarre parce que c'était un salon de chimie et c'était vraiment spécial. Et nous, on était là, les deux, et on n'est pas vraiment des chimistes, mais on a parlé avec les personnes là-bas. Ils ont dit, bon, c'est une bonne idée, pourquoi pas, ouais, on aime bien l'idée, on peut vous aider. Et donc, de là, on a commencé avec eux, mais après, pour vraiment développer le projet, c'était important pour nous de nous déménager en France pour être ici, pour avoir des aides et aussi le réseau pour vraiment finaliser le développement.
Vous étiez pris au sérieux par ces gens de l'industrie de la chimie et tout, ou c'était un peu, ils faisaient ça à la légère
Oui, c'était vraiment pas facile, mais on a essayé, et on a essayé, et on a eu la bonne chance avec des gens aussi, je pense. On a toujours le même partenaire pour la chimie de la mousse, mais on a trouvé un autre partenaire pour le développement de notre deuxième produit, le résine biosourcé pour la glaçage.
D'accord.
Donc, on a deux partenaires chimiques.
Mm-hmm.
Et pour le moment, on a un partenaire en Espagne pour la production de mousse. Et on était dans les États-Unis juste maintenant, en janvier, pour trouver un fournisseur pour la production globale. Et nous, on était entre les deux, on a géré tout le développement. Et après, on a commencé avec la commercialisation de le produit, le marketing et tout ça. Ouais. Quand on a commencé, la première mousse, c'était pas vraiment bien, non? Aujourd'hui, on peut dire la première mousse, c'était horrible. Donc, c'était vraiment difficile de arriver avec une mousse parfaite, parce que pour les planches de surf, c'est vraiment important d'avoir une mousse toujours avec la même qualité, avec des bons mécaniques, non? Donc ça, c'était vraiment difficile. Et nous, on était là pour gérer ce projet et on a commencé avec une formulation de 30% matériaux recyclés à peu près. Et maintenant, on a 70% matériaux de recyclage. Donc, on veut toujours améliorer le produit aussi.
Parce qu'au début, vous partiez, j'imagine, de produits recyclés extérieurs à l'industrie du surf. Parce que si j'ai bien compris, tu l'expliqueras mieux que moi, mais le concept, c'est que c'est un peu un circuit fermé. C'est-à-dire que les shapers, ils vous renvoient les chutes de matériaux que vous recyclez, c'est ça? Et j'imagine qu'il y a aussi une part de produits extérieurs qui n'ont rien à voir avec le surf, peut-être?
Alors, ouais, c'est sûr. Donc, on a commencé avec une mousse d'une autre industrie. Ça devient plus de packaging industry et pas post-consumer, mais post-industrial. Donc, ça veut dire des chutes dans une usine industrielle pour la production de matériaux de packaging. Donc, c'est notre base de matériaux.
Ça l'est toujours?
Oui, ça c'est toujours le même matériau qu'on utilise pour notre mousse.
D'accord.
Mais oui, l'idée et la vision en général, c'est vraiment à l'avenir, à la future, d'utiliser les déchets de la production de chaises aussi. Mais pour vraiment avoir un système qui fonctionne bien, ça prend beaucoup de temps.
C'est-à-dire que pour l'instant, ce que vous récupérez des shapers, ça ne vous suffit pas à produire des pains
ouais.
de mousse, c'est ça?
Oui, mais on récupère déjà tous les déchets. Si quelqu'un veut, tu peux nous envoyer le déchet. Et on travaille par exemple aussi avec Pirel. Ils ont un jour spécifiquement pour couper tout le mousse polio là, et donc là on peut récupérer tous les déchets aussi, et avec les autres partenaires aussi.
Ok, donc vous avez des partenaires par exemple Viral en France qui vous récupèrent beaucoup de matériaux, et est-ce que des shapers indépendants, des petits artisans par exemple, peuvent récupérer
ouais.
leurs chutes et vous les envoyer, ou comment ça fonctionne en fait tout ça?
Ouais, donc si t'es ici dans le sud-ouest, tu peux nous ramener les chutes. Si t'es plus loin, tu peux nous envoyer les chutes aussi. Donc les deux, c'est possible. Mais c'est pas obligatoire, donc vraiment, il y a pas beaucoup de shapers qui font ça pour le moment. Mais je pense à l'avenir, quand c'est un peu plus des habitudes, non, de faire ça, ça peut marcher aussi. Et aussi, un truc intéressant, dans la production d'une mousse, il y a toujours environ 500 grammes de mousse polyuréthane comme chute déjà dans un bucket. Il y a toujours d'environ 500 grammes de mousse déjà comme déchet.
D'accord.
Pour toutes les planches de surf globales. Et tu vois, ça c'est déjà énorme. Moitié kilo chaque planche juste pour la production d'une mousse, déjà. Et ça, c'est pour notre mousse, et ça, c'est pour les autres mousses aussi.
Ouais.
Donc ça, c'est dans l'usine de notre partenaire en Espagne. Ça, pour nous, c'est vraiment facile de récupérer. On a fait ça depuis 3 ans. Le premier objectif, c'était de récupérer tout ça de notre production. Et après, il faut aussi récupérer de tous les shapers, mais ça prend beaucoup de temps et ça c'est beaucoup plus compliqué aussi. C'est pour nous, ça c'est une vision. Dans 5 ans, 10 ans, je sais pas si le monde du surf ça marche comme ça. J'aimerais bien, mais pour nous, pour commencer, le plus important c'était d'avoir déjà une grande quantité de matériaux recyclés dans la mousse. Pour avoir un produit plus durable pour commencer. Et après, tout le logistique, c'est la deuxième étape, on peut dire.
Je reviens un petit peu en arrière, parce que bon, moi, j'aime bien toujours refaire un peu l'histoire. Je trouve ça intéressant. Comment
oui,
ça s'est passé les premières années?
Ouais, non, on a eu cette idée. Et on était ici quelques fois pour réfléchir si, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment être ici, pour avoir des finances et pour vraiment développer ce projet aussi. Donc, on était en Espagne aussi pour 2 mois et après, on a connu des personnes ici qui bossent pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, avec eux, on a fait un business plan et on a dit, bon, ça c'est l'idée, ça c'est l'objectif. On a notre partenaire en Allemagne, on a déjà fait tous les prototypages avant. Donc on a déjà eu des prototypes. Donc ça c'était déjà bien pour avoir quelque chose dans la main. Et après on a pris un prêt bancaire.
Ouais.
Et on a eu les aides de la région Nouvelle-Aquitaine aussi pour commencer il y a trois ans.
Et du coup, les 2-3 années avant, c'était à vos frais. Vous aviez fait les prototypes avec vos partenaires. Mais tout ça, c'était personnel.
Oui, ça, c'était personnel. Mais aussi, on a fait une bonne deal avec notre partenaire chimique en Allemagne. Donc, ils ont vraiment nous aidé pour développer la formulation. Et nous, on paye maintenant pour quand on achète des quantités. On a parlé avec eux et on a dit, si tout va bien, on peut vous rembourser quand on commence avec les ventes. Tu vois? On a vraiment eu la bonne chance avec cette entreprise, avec des personnes qui bossent là-bas. Ils ont dit, bon, vous êtes jeune, vous avez 28 ans et on pense que ça c'est une bonne idée. Donc, vas-y. Donc, ça c'était bien pour nous.
Aujourd'hui, vous êtes toujours tous les deux ou vous avez grossi un peu en termes d'entreprise?
On est trois ici. Alors, Daniel, mon cofondateur, moi et Jacob. Et pour l'instant, ça va très bien. On s'occupe de la vente, le marketing, le research et développement des 7 produits, mais des autres, des nouveaux produits aussi. Donc, ça marche très bien avec les trois.
D'accord. Et qui, tu peux nous expliquer un peu qui s'occupe de quoi, comment ça marche?
Oui. Alors, Daniel, il fait plus le research. Moi, je fais le marketing et le sales. Et Jacob, qui a commencé l'année dernière avec nous, bon, il fait un peu de tout aussi, on peut dire.
Okay.
Donc, on est vraiment, ça marche très bien avec les trois et on est vraiment content de gérer comme ça avec trois personnes.
Okay.
Dans l'usine en Espagne, il y a à peu près 4 personnes. Pour le moment.
Qui sont dédiés entièrement au projet Polio, là, quoi.
Non, ça c'est l'usine à eux. Ils font leur mousse et notre mousse, ouais.
Ok, et comment vous avez été accueillis au niveau de l'industrie du surf? Parce que j'imagine qu'il y a de la concurrence avec des marques bien établies, il a fallu convaincre les shapers que c'était une bonne idée. Comment ça s'est passé?
Donc pour être vraiment honnête, c'était pas facile. Si tu viens d'Allemagne et ça c'est déjà un stéréotype de surfeur, non? Parce que on n'était pas dans l'industrie de surf ici en Europe, même pas dans l'industrie de surf globale des États-Unis ou des Australie.
Ouais.
Et ici en France, c'était vraiment difficile quand on a commencé parce que, alors les shapers, ils ont dit, on veut bien un pain comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est important que c'est blanc aussi. Donc on a commencé avec le développement et on a fait tout, mais c'était pas possible de faire une mousse blanc parce qu'on utilise des matériaux recyclés. Donc ça, c'était la seule chose. Et ça, c'est toujours le truc plus compliqué pour solutionner. Et la mousse, ça marche très bien avec des couleurs aussi. Donc, tu peux vraiment faire des belles planches.
Okay.
Mais la mousse de surf, c'était toujours blanc il y a 60 ans. Donc, ça, c'est la première fois qu'une mousse n'est pas blanc. Donc, c'était vraiment, ou ça c'est toujours vraiment difficile. Et après, on a commencé ici en Europe il y a 3 ans, mais l'Europe c'est vraiment le marché plus petit de surf mondial. Donc, c'était vraiment difficile aussi pour trouver de partenaires ou pour trouver des personnes dans les États-Unis ou en Australie qui veulent faire ou qui pensent que ça c'est une bon projet. Maintenant, on est très content. On a trouvé le meilleur partenaire dans Californie. Donc, ça c'est bien, mais c'était pas vraiment facile parce que le surf en Europe, c'est trop petit pour les Américains et les Australiens. C'est toujours comme ça quand tu commences, je pense. Et maintenant, on a un projet avec eux de faire la fabrication là-bas.
Et en Europe, parce que là, pour l'instant, enfin, vous commencez à être quand même bien implanté en Europe. Maintenant, vous êtes distribué notamment chez Viral, t'en parlais tout à l'heure. Vous avez d'autres points de vente en France?
Ah non, c'est juste Viral. Ou par nous.
Est-ce que tu peux expliquer, grosso modo, comment on fabrique un pain de mousse polyuréthane?
Oui, alors, pour la fabrication d'une mousse polyuréthane, tu as besoin de deux liquides. Une liquide s'appelle polyol, l'autre liquide s'appelle isocyanate. Et nous, on a développé le polyol. Ça, c'est notre propre liquide. Et ça, c'est plus 80% de matériaux déjà recyclés. Pour l'isocyanate, on utilise une autre isocyanate d'environ 60% de matériaux recyclés. Et donc, il faut bien mélanger les deux. Et après, tu as une moule. Et là, il faut mettre les deux liquides mélangés dans cette moule. Et il faut fermer la moule. Et après, il y a une réaction chimique dans cette moule, on peut dire. Et après, d'environ 30 minutes, la mousse est prête. Bon, c'est pas prêt, mais c'est prête pour sortir de la moule, déjà. Et après, ça prend d'environ, bon, ça dépend, mais on peut dire une heure. Et tu peux, si tu veux, déjà couper la mousse pour mettre le stringer, ça c'est normalement en bois aussi, pour mettre le stringer pour la mousse, pour avoir la stabilité. Moi, comme j'ai expliqué ça, c'était vraiment facile, mais c'est vraiment pas facile.
J'imagine.
C'est vraiment un sujet vraiment difficile. Il y a, dans ce moment, je pense, il y a juste deux fournisseurs de mousse en Europe. Ils sont vraiment petits. Et tous les gros fournisseurs, ils ont dans les États-Unis ou en Australie. Et c'est vraiment une domaine compliqué. Ouais. De toujours faire la même qualité.
Vous avez les mêmes problématiques que les pains de mousse classiques, à savoir que l'extérieur est plus dur que le cœur, ou pas?
Oui, nous, la chimie qu'on utilise, ça c'est mieux avec notre produit. C'est plus homogène. Pour tout la mousse, déjà.
Oui. D'accord.
Ça, c'était une chose, par exemple, quand on a parlé avec les shapers, ils ont dit, ouais, mais quand je fais le coupe avec le CNC machine, il faut pas couper trop dedans, non? Et ça, c'était toujours un problème pour eux. Donc, quand on a commencé de développer la formulation avec les chimistes, on a dit, OK, c'est vraiment important de toujours avoir la même densité toujours. Donc c'est pas 100% la même densité, c'est juste impossible dans le mousse polyuréthane, mais c'est vraiment bien, on peut dire. Ouais. En général, le feedback des surfeurs qui utilisent notre mousse, comme Vincent Duvignac ici en France ou Miguel Blanco en Portugal, ils disent que c'est vraiment, même si tu coupes dans la mousse, c'est toujours, ça reste une mousse ou une planche forte.
Ok. Ouais. Et du coup, je pense que je connais déjà la réponse, mais vous avez bossé sur du polyuréthane. Vous auriez pu choisir de partir sur une mousse polystyrène. C'était vraiment parce que vous aviez vu que la majorité des shapers travaillaient avec, ou il y avait d'autres raisons qui orientaient ce choix?
C'était juste ça. Pour nous, c'était vraiment important de faire un produit qui est tout le monde peut utiliser facilement. On veut bien faire le même produit, mais juste plus durable, on peut dire, avec des matériaux recyclés. Ouais.
Ouais, vous êtes vraiment parti des shapers et pas du produit, quoi. Vous vous êtes dit qu'est-ce qu'ils utilisent et comment on peut l'adapter, quoi.
C'est ça. Et tout le monde, il a dit non, on veut pas le EPS. Donc on a dit bon, on va pas faire le EPS.
Et du coup, maintenant, parce qu'une des problématiques quand tu veux vendre des pains de mousse, c'est que du coup, j'imagine qu'il faut développer beaucoup de moules différents pour proposer beaucoup de shapes différents. Comment ça s'est passé, ça? Vous avez, dès le début, vous avez fait plein de moules différents ou ça s'est étendu petit à petit?
Oui, alors notre partenaire en Espagne, lui, il a eu 4 moules. De 6-2 jusqu'à 7-4. Mais nous, ça manquait pour, par exemple, des longboards. Et nous, on a commencé à travailler avec une shaper de Californie qui habite ici en France. Il s'appelle Robin Kegel. Il est très connu dans le monde du longboard. Mm-hmm. Et lui, il a vraiment aimé la mousse. Mais comme on n'a pas eu un 9-4 ou un 9-9, il a dit, vas-y, j'aimerais bien shaper avec votre mousse uniquement, mais ça manque de longboard. Donc lui, ça c'était très, très bien pour nous, lui il a dessiné le 9-4, le 9-9 qu'on a maintenant, et après on a fait le 2 moules pour nous en Espagne. Mais maintenant on est aussi un peu dans une transition, on peut dire, parce que comme j'ai dit avant, on était en Californie pour trouver un partenaire là-bas. Et là, on a trouvé quelqu'un, je pense. Et avec eux, on va travailler, mais on va vraiment utiliser tous les mots qu'ils ont déjà. Ça, c'est sûr. Et pour nous, on peut leur donner plus la technologie, mais on fabrique pas le mousse nous-mêmes. Ça, c'est à eux.
Oui, d'accord.
Nous, c'est plus intéressant pour nous de faire le research and development des nouveaux matériaux et pour des autres industries aussi à l'avenir. Ouais. Le processus pour une planche normale et pour une mousse normale blanc ou pour notre, c'est pas 100% le même, mais c'est pareil. Donc ça marche dans toutes les usines, on peut dire.
Ok, mais c'est quand même pas exactement pareil, tu dis.
Non, c'est pas exactement pareil. Non, les températures de la moule ou aussi le temps, c'est vraiment différent. Ouais, c'est un peu différent, mais si tu sais faire une mousse, tu peux travailler avec les deux matériaux, bien sûr. Ça, c'était important pour nous aussi. Ouais.
Si tu fabriques aux États-Unis, par exemple, ça sera vendu mondialement, ça sera vendu qu'aux États-Unis. Qu'est-ce qui est prévu chez vous?
Oui, donc on est toujours dans la discussion avec eux. Si on peut travailler avec eux, ça nous permet de vendre en Australie aussi, par exemple. Pas juste dans les États-Unis, ouais.
Ok, mais pour le moment, il y aurait quand même un producteur, en tout cas en Europe, et un producteur aux États-Unis.
Ouais, pour le moment, oui.
Ok. Ouais. Est-ce que vous avez pu évaluer la différence d'empreinte carbone entre un pain classique et un pain à vous? Parce que recycler, c'est une chose, mais ça consomme aussi de l'énergie, ça consomme aussi des ressources. Donc, est-ce que, au final, au niveau de l'empreinte carbone, il y a une différence?
Oui, c'est une bonne question. On est en train de faire ça, peut-être maintenant, avec Sustainable Surf en Californie, et eux, ils ont un partenaire qui s'appelle Makerside, et eux, ils font tout le SEA pour les grosses entreprises.
Okay.
Donc, avec eux, on a commencé ce projet, et j'espère que dans quelques semaines, on peut avoir des résultats. Mais ça, c'est vraiment important pour nous de savoir. Donc, on a déjà des chiffres pour notre liquide de notre partenaire en Allemagne, et ça c'est déjà très bien, mais pas pour la mousse entière. Donc on est en train de faire ça pour le moment. Ouais.
Ok. J'ai vu il y a quelque temps que vous aviez des pains teintés aussi, colorés.
Oui, donc c'est pas trop difficile de faire ça. Tu peux utiliser des pigments, un polyol, Et après, tu peux mélanger ça dans la formulation. Mais comme nous, pour nous, c'était toujours la couleur, tu vois. C'était toujours, ah, mais pourquoi la mousse n'est pas blanche? Pourquoi c'est comme ça?
Ouais.
Donc, pour nous, c'était aussi c'était bien de faire de mousse en gris, en bleu, ou avec les autres couleurs. Et les chefs, ils ont demandé ça, donc on a fait ça. Mais c'était pas possible de faire une mousse blanc-blanc avec notre formulation. Peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, avec le matériau recyclé qu'on utilise, c'est pas possible.
Après, moi, j'en vois pas mal passer sur les réseaux et tout. Je trouve que quand c'est bien travaillé, ça rend très bien aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi une adaptation qui va prendre longtemps,
oui.
Mais qui est culturelle. Donc, c'est sûr que ça prend un peu de temps de s'habituer.
Oui,
quoi.
Oui, t'as raison.
Et en même temps, les planches blanches, au bout de 6 mois, il y en a qui sont jaunes, quoi. Donc, au final, est-ce que la couleur, elle évolue dans le temps aussi, comme les planches, ou ça reste... Pour le coup, ça reste marron comme ça.
La couleur, normalement, ça reste comme ça, oui. Au niveau de développement, quand on a commencé, la couleur, c'était différent. C'était plus marron, mais quand on a changé la formulation, on a fait des essais d'avoir une autre densité. Maintenant, on a cette couleur et ça, c'est la couleur de mousse. Pour l'instant.
Et d'ailleurs, vous avez différentes densités également de pain, j'imagine?
Oui, maintenant, il y a quelques mots qui en ont 2 densités. Ouais, la densité normale et une densité plus légère.
Plus légère, ok.
Ouais.
On parlait des couleurs. Est-ce que vous avez eu des retours des glaceurs sur le fait d'utiliser de la résine teintée sur un fond marron?
Oui, bien sûr, c'est un peu différent, mais en général, les retours, ils sont vraiment positifs. Ils disent que normalement, avec une mousse blanc, la couleur, c'est plus forte, on peut dire. Et avec notre mousse, la couleur, ça reste plus comme la couleur originale.
Mais même avec une résine transparente, ça altère pas, ça altère pas la couleur, en fait.
Oui, avec une résine transparente, ça va changer. C'est sûr, parce que c'est pas blanc. Avec les opaques, c'est pas un problème. Avec les transparents, il faut vraiment faire des essais pour savoir comment se travaille. Oui.
J'ai vu sur vos sites, vous aviez un shaper finder.
Oui, on a fait ça parce que si toi t'es shaper et tu travailles avec notre mousse, et ça c'est pour nous une manière de t'aider pour trouver des clients aussi. On peut. Et si toi, tu veux acheter une planche avec notre mousse, et peut-être tu connais pas tous les shapers, peut-être ça peut t'aider de trouver quelqu'un qui tu aimes bien le planche. Ouais.
Ok. On peut parler de votre nouveau projet de résine.
Oui.
C'est une résine polyester, du coup, biosourcée.
Oui.
C'est également une logique de recyclage ou pas? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Oui, alors ça a commencé un petit peu comme la mousse aussi. Donc, mais on était déjà ici en France et on a dit bon, ça va maintenant avec la mousse, mais il faut vraiment aussi changer la résine polyester parce que les deux produits, ça devient de fossil fuels. Donc ça c'est vraiment, ça c'est une ressource finie. Donc ça c'est un truc qu'il faut changer aussi. Donc on a trouver une entreprise chimique qui bosse dans une autre industrie et eux, ils ont commencé à développer la base de résine à partir de matériaux végétaux. Mais ils n'ont pas pensé dans l'industrie de surf non plus, mais pour les autres applications. Donc nous, comme la dernière fois avec la mousse, on a parlé avec eux et ils ont bien aimé l'idée. Donc on a commencé de travailler avec eux. Et nous, on a commencé avec la base de chez eux. Mais nous, mon partenaire Daniel, ici, lui, il a vraiment commencé de faire toute la formulation en France, nous-mêmes, avec tout le savoir-faire qu'on a déjà créé depuis 3 ans ici, on peut dire. Et la formulation, c'est hyper spécialisé. Et c'est une formulation qu'on a fait, on a travaillé dans ça un peu plus d'1 an.
Cette résine, où en est le projet actuellement?
Oui, pour le moment. moment, on ne le vend pas. Ce n'est pas fini. C'est à 90% fini, on peut dire. Et j'espère qu'on peut, on peut le vendre fin de l'année.
D'accord.
Ça, c'est l'objectif.
Qu'est-ce qui est différent dans les résines que tu vas utiliser pour du surf d'une résine utilisée pour n'importe quoi d'autre?
Ouais, tout. La viscosité, la manière de travailler, le timing, c'est vraiment, et la viscosité, ça c'est vraiment différent que tu as besoin des autres résines. Oui.
Et du
et,
coup.
Et aussi, maintenant il y a le époxy. Mais c'est la même chose. Les glaciers, la majorité, ils veulent pas travailler avec l'époxy parce que c'est plus un peu plus compliqué, on peut dire, et c'est ça coûte beaucoup plus cher aussi. Donc tout le monde, il a dit ah ok, tu, si tu veux faire une résine, on veut bien le polyester, polyester que le polyester. Donc on a dit ok, on va chercher quelque chose, on va réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire comme polyester, mais biosourcé.
Ok. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez pu évaluer en termes de carbone ou pas encore?
Ouais. Non, on est en train de faire ça aussi. Ouais, les deux.
Et pour l'instant, c'est prometteur?
Oui, je pense que ça va changer beaucoup la résine, beaucoup plus, on peut dire.
D'accord.
Ouais.
Je me rappelle pas exactement le chiffre, mais j'ai vu qu'il y avait une grosse part de composants biosourcés, du coup, dans cette résine.
Ouais, c'est, je suis très mal avec le numéro en français. Comme on dit,
70%.
Ouais, 70% biosourcés pour okay. Le moment, mais honnêtement aussi, avec le prix qu'on a pour l'instant, ça coûte déjà un peu plus cher que la résine normale polyester.
Mm-hmm.
Donc peut-être il faut réduire le content bio pour 10%, 15% pour avoir le bon prix aussi pour le marché. Tu vois, c'est pas bien, mais les jeunes ils veulent pas acheter un truc pour 1 euro, 2 euros plus cher par kilo, même si c'est 20% plus écolo.
Ouais,
donc ça c'est difficile, mais il faut bien arriver avec un produit plus durable, mais avec un prix économique pour le marché aussi.
Et vous pouvez pas, c'est trop compliqué de proposer différentes gammes avec différents pourcentages.
Ouais, c'est trop compliqué.
Ouais.
Ouais, c'est compliqué de comprendre si c'est juste le kilo, c'est 1 euro plus cher, personne le veut acheter. Tu vois?
Ouais.
Donc c'est vraiment très sensitif pour le prix. Pour ça, on est toujours en train avec le partenaire de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un bon produit, mais un bon prix aussi, bien sûr.
Mais techniquement, en tout cas, sans parler d'argent, vous sauriez aller jusqu'à 70%.
Techniquement, pour le moment, c'est ça. Oui, c'est vrai. On va voir.
Et ouais. Si vous ignorez le prix, vous sauriez faire encore plus que 70% ou c'est pas faisable?
Non, pour le moment, c'est pas possible parce que il y a toujours tout le catalyse. Pour l'instant, on utilise aussi le styrène.
Oui.
Il y a la possibilité de utiliser des autres matériaux et pas le styrène aussi, mais aussi le styrène, ça coûte pas trop cher. Donc il faut utiliser le styrène pour le moment parce que sinon ça coûte trop cher le styrène. C'est tout une question de prix.
Ouais, bien sûr.
Comme dans les planches de surf, il n'y a pas beaucoup d'argent, ça reste toujours une question de prix.
Tu peux nous parler un petit peu des matières premières qui vous servent à faire cette résine ou c'est confidentiel?
Ouais, ça pour l'instant, avec notre partenaire, c'est confidentiel parce que
okay.
Eux, ils font un truc et après on peut dire qu'est-ce que c'est. Ouais.
Vous avez pu la tester déjà?
On a fait pas mal de planches déjà. On a fait des planches avec notre Team Riders. On a fait des planches dans les États-Unis aussi, quand on était là maintenant, avec notre partenaire là-bas. Donc ça va. Au niveau comment se travailler, c'est déjà presque comme le cinéma. Ouais, pour surfer, je pense c'est pareil aussi. On n'arrive pas à avoir une couleur claire pour l'instant, mais on est en train de changer ça aussi pour avoir vraiment une ses lignes claires comme le film. Oui, mais ça, c'est le dernier objectif, on peut dire. C'est pas pareil, mais on est presque là.
Ouais. Okay.
Mais ça prend toujours de research et développement, ouais.
Et c'est une résine qu'on pourrait utiliser sur n'importe quel pain de mousse, ou enfin polyuréthane, ou que les vôtres?
Non, n'importe quoi.
D'accord.
Le
Avec n'importe quelle fibre,
ouais.
Également.
Oui. Oui, sûr. Mais c'est mieux avec notre mousse.
Bah, bien sûr. Évidemment, ouais. Évidemment. Ok. Comment ça se passe, en fait, pour les tester, pour les fabriquer, ces planches? C'est vous trouvez des ateliers, des shapers et des glaceurs avec lesquels vous travaillez pour mettre au point tout ça, qui vous font des retours? Comment ça se passe?
Oui, c'est ça. Donc, quand on a commencé avec la mousse, il y a plus de 3 ans, on n'a pas eu un réseau dans l'industrie, donc c'était beaucoup plus compliqué. Mais maintenant, on connaît bien des gens dans l'industrie, donc c'est plus facile de faire des tests pour la résine, par exemple.
Vous avez eu besoin de beaucoup l'adapter pour répondre aux besoins des glaceurs? Ou finalement, dès le départ,
oui.
Ça a assez bien fonctionné?
Non, c'était vraiment important de travailler avec eux, de savoir si ça marche bien ou si ça marche pas bien, d'avoir tout le temps de kick time et tout ça pour commencer à travailler une planche de surf, tu vois. Donc, c'était vraiment important d'avoir leur knowledge de tout ça, oui.
Ok. Et bah, du coup, vous n'avez pas encore beaucoup de retours sur la longévité en elle-même, j'imagine, vu que vous n'en avez pas encore fabriqué tant.
On a quelques planches dans l'eau il y a 6 mois déjà,
okay.
Un peu plus. Donc ça c'est pas mal, je pense. Ouais, pour l'instant, ça va bien, ouais.
Vous avez du coup ces deux projets qui sont vos deux produits en cours. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres perspectives pour l'avenir?
Alors, pour le moment, ça, c'est déjà beaucoup pour nous.
Oui.
Mais on aime bien de faire des autres choses et de développer les matériaux pour les autres industries aussi. Donc, on a commencé de faire de premiers contacts dans les autres industries aussi, pour la mousse et aussi pour la résine. Mais ça, il y a des projets, mais c'est pas vraiment bien développé. Donc
okay.
ça prend du temps, mais pour nous c'est important parce que on pense que on n'est pas une fournisseur de mousse et on n'est pas une fournisseur de résine. Mais pour nous c'est plus on développe la formulation de mousse et on développe la formulation de résine. Et maintenant on peut travailler avec des bons fournisseurs qui font ça. Et nous on aimerait bien développer des autres matériaux ou pour des autres industries avec cette réseau qu'on a pour le moment.
Qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui dans votre développement?
Avant, quand on a commencé, c'était peut-être vraiment la couleur, on peut dire, facilement. Et après, je pense, c'était vraiment l'acceptance du marché global, des États-Unis et des Australies. Parce que normalement, tout de la culture de surf, ça devient de Californie, non? Donc, je pense que c'est vraiment important d'être là-bas pour avoir la validation de ce marché. Donc, ça, c'était l'objectif pour l'année dernière. Et je pense qu'on a fait tout ça pour avoir un partenaire là-bas maintenant. Mais ça, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup d'entrées des États-Unis ou des Australies, des grandes marques aussi. Mais c'est vraiment hyper cher d'envoyer de mousse d'Europe à les États-Unis. Donc, c'était pas possible de faire ça. Donc, c'était vraiment hyper important d'avoir une fournisseur là-bas. Et aussi, notre partenaire de la mousse, de la chimie, ils ont commencé de travailler dans les États-Unis aussi. Donc, on peut sourcer le matériau là-bas aussi. Ça, c'est génial.
Qu'est-ce que ouais. J'ai... Je crois que je t'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder?
Non, pour moi, c'est bien pour le moment. Et nous, on travaille avec tous les shapers. Si quelqu'un il est intéressé, il peut nous envoyer par Instagram en français ou peut-être aussi mieux en anglais pour nous. Mais donc, on peut parler de toutes les questions là-bas aussi, si quelqu'un a une question. Nous, on a un entrepôt avec un copain à Bayonne pour le moment. Okay. Donc là, tu peux passer, tu peux nous appeler avant, ou sinon chez Viral.
Sinon chez Viral, ok.
Ouais.
Bon, bah, c'est super. Écoute, je suis sûr que je vais avoir plein d'idées de questions trop tard, mais pour le moment, j'ai posé toutes les questions auxquelles j'ai pensé. Donc c'est déjà bien. Et voilà pour cet épisode consacré à Polyola. Merci Aristide d'avoir pris le temps de participer au podcast et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Rendez-vous sur leur compte polyola-surf et sur leur site polyola-surf.com pour en savoir plus sur leur travail et suivre leur actualité. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram shape.ology pour être au courant des prochaines sorties et découvrir les photos et vidéos de l'épisode. Enfin, rendez-vous sur le site shapeology.fr où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes, un lexique, un annuaire du shape français et plein d'autres contenus à venir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.